fardée, présente des plats parfumés. Mais quand je vais pour les manger, il n'y a que cailloux gelés. Tous les jours un amant m'appelle sur des lits de satin bleu ciel. Si j'approche, il n'y a qu'un corps de sanglier mort ou de porc. Et je chancelle et je chavire dans cette espèce de délire. De spots et de bijoux fluo, de vertigo et de light show. Moi qui veux la porte dorée qui conduit à l'éternité. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. D'un incendie rose bonbon. D'un incendie rose bonbon. D'un incendie rose bonbon. D'un incendie rose bonbon.
Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivit un shampoing au bichromate de potasse, puis on noua une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutumes et us, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calvige au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées.
Capter la compétence de la rime. Regardez le style de la banlieue nord. plume, mon diplôme, un blâme, un problème, un suprême programme haut de gamme qui engraine, qui entraîne des bris de crâne, des vitrines, crimes qui se trament, nitroglycérine, premier album, je dégomme, sors des abîmes, j'amène œdème et rétame des ridimes, j'étonne, on m'acclame, je donne mon mot d'ordre et mon modem, qui dame des dômes sur le macadam, des tonnes d'ultimatum dans mes thèmes, hématome dans mes tomes à l'antenne et cartonne le système, fais grand chelem pour victime des HLM, vu que Paname est tel Gotham, tam tam et cocktail. Ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes, emblème et on l'aime et l'acclame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes, emblème et on l'aime et l'acclame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, j'en ai partout, t'es averti, vas-y pars-toi, je vire tout et suis en liberté, allez tire-toi. C'est mon carton, mon cartel est partant. Deux sorties pour apporter un bordel important. Il est temps de jarter, on va tarter. Sans vertu ni mon courtois, on va t'écarter. Fais-le pour toi, en retard tu iras par terre en martyr. Et verras les cratères de tes artères ressortir. Car on torture dans nos dortoirs. Et puis t'attire sans critère dans nos vestiaires pour se divertir. Inspecteur, reporter, auteur sectaire. Il est trop tard dans le secteur pour vos projecteurs. Routard, scooter, motard, conducteur. Compte bien dicter leurs lois sur le terre-plein. Vous faire taire, humanitaire, manquant d'humanité, on va les dynamiter, les matons les menotter, nantis à édenter, dans des salons de thé, anéantis au pays de Tonton, moi je viens pour les dompter, on va monter les scies à métaux, nous les bantous, carmater les moutons à ne battre, c'est un métier. Et ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes, emblème et on l'aime et l'acclame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes, remblème et on l'aime et l'acclame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, attaquer les verts kakis, saquer leurs locaux, maquer les dents de maquis sans tricot illico, braquer les marquis, friquer leurs acquis écus. Ils ont croqué, conquis leurs 40, raquant nos vécus. Nous, délinquants indiqués, au sol plaqué, flanquant du boucan et déraclé à qui s'est moqué. Pas ex aequo, juste parqué dans ce fiasco, confisquons whisky et pissons sur le cocorico. Ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et l'acclame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et l'acclame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, alors t'as suivi? Ça t'a plu? Hein? T'as vu ce style? T'as vu cette dextérité? T'as vu cette compétence? Ça, ça existe uniquement chez Enfalche.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence ce soir avec quelques minutes de retard. On vous prie de nous en excuser, mais la technique est toujours en l'absence du divin José, un peu aléatoire. En tout cas, ça arrive. On est là, voilà, on est là et on démarre cette émission. Alors, ce soir, autour d'un livre de Vincent Berthelier qui s'appelle « Le style réactionnaire » de Maurras à Houellebecq, qui a été publié aux éditions Amsterdam en 2022. Donc, c'est pas tout chaud, mais c'est au moins tiède. Et en tout cas, le sujet abordé dans le livre, « Le style réactionnaire » donc de Vincent Berthelier, assez passionnant, il faut bien le dire, puisque c'est un essai d'analyse stylistique, mais aussi politique, sociologique, esthétique au sens large, de tout un courant de la littérature française au XXe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il termine avec Houellebecq, qui est toujours en activité. Et alors, c'est un livre, donc, Vincent Berthelier est un universitaire, c'est un spécialiste de la stylistique, donc c'est un certain type d'approche des œuvres littéraires, mais qui est vite assez technique, où on s'intéresse vraiment à la forme et au comment, je dirais, de l'écriture romanesque, de l'écriture littéraire. Mais dans ce livre, là, style réactionnaire, je trouve que c'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui est pas du tout exclusif sous la plume de Vincent Berthelier, de toute une analyse contextuelle extrêmement fouillée, extrêmement précise, extrêmement juste, je trouve, de l'histoire, bah, finalement de l'extrême droite française aussi, hein, et alors dans son expression esthétique et littéraire, ce qui est pas un détail puisque je pense qu'on peut dire que la littérature occupe une place un petit peu à part dans l'esthétique d'extrême droite, du moins en France. C'est une espèce, il y a une espèce de précaré, je dirais, un peu littéraire à l'extrême droite, dans lequel, du coup, il va lui s'engouffrer avec ses instruments analytiques, mais aussi avec une culture politique, voilà, qui n'est pas toujours présente, hein, il me semble, dans les œuvres d'universitaires spécialistes de littérature. Et ça donne un livre que j'ai trouvé, moi, passionnant. Alors, il y a des, c'est extrêmement brillant, parfois même un peu intimidant, je trouve, du point de vue des analyses ponctuelles, hein, qu'il va proposer de certains extraits.
Quand il se lance dans la stylistique et qu'il analyse d'un point de vue purement, formel, grammatical, dire, formel, rhétorique, des passages, on se dit ouf, ça s'invente pas.
Ça s'invente pas, mais je trouve que c'est assez passionnant, y compris cette partie technique là, et c'est surtout au service d'un propos qui est toujours, lui, pour le coup, très compréhensible et vraiment passionnant. Hein,
mais même les passages stylistiques sont toujours très pédagogiques. Exactement. Pas besoin d'être... ni toi ni moi ne sommes des spécialistes en stylistique. Et pourtant, c'est très compréhensible.
C'est très compréhensible. Après, ça reste un travail universitaire. C'est pas de la vulgarisation. Hein, je pense que c'est d'ailleurs un texte qui est tiré de sa thèse. Hein,
Je sais pas. Il y a des chances.
Alors, concernant après le propos du livre, alors c'est un livre qui est impossible à résumer, hein, parce qu'il est extrêmement riche, extrêmement dense, et il va prendre un petit peu en enfilade toute une série d'auteurs. Alors, pour certains connus, pour d'autres un peu moins ou un peu moins lus, puisqu'il part de Charles Maurras, qui est un peu l'espèce de figure tutélaire de... Ben, non seulement de la pensée d'extrême droite française, mais aussi de sa traduction littéraire, pour le coup. Et on verra pourquoi, parce que c'est intéressant. Et je pense que ça, c'est une particularité de ce courant en France.
C'est curieux, d'autant que Charles Maurras, finalement, était plus connu comme critique littéraire et comme polémiste d'extrême droite que comme écrivain.
Exactement.
Mais bon, malgré tout, il a donné le là pendant un certain temps.
Exactement. Et alors parmi les figures plus connues, alors il y a évidemment un chapitre sur Bernanos, très intéressant, très très intéressant, je trouve. Il parle de Marcel Jouhandeau aussi, alors qui est peut-être un petit peu moins lu aujourd'hui. Des écrivains qu'il essaye et dont il essaye de montrer en fait en quoi il se rapporte finalement à une forme de fascisme littéraire, hein, c'est le concept qu'il propose. Alors il y a évidemment ceux qui ont été des fascistes revendiqués, hein, donc Drieux-La Rochelle, Monterland,
Brasillac,
bien entendu, Céline, qui est lui, alors pour le coup, peut-être de son point de vue, celui qui se rapprocherait le plus de ce qu'on pourrait appeler un fascisme littéraire, et les deux termes sont importants dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est la pratique de la langue et le style, Céline, précisément, après Mort à Crédit, peut effectivement, à bon droit, être considéré comme une forme spécifique. C'est peut-être le seul des auteurs qui l'aborde.
Auquel il consacre finalement assez peu de pages, mais parce que... C'est vrai que par rapport à Maurras, qui lui vise une espèce d'aristocratie d'extrême droite, qui s'adresse à peu dans un style, élevé, le côté fasciste de Céline, lui, c'est dans le côté langage populaire.
Exactement.
Mais langage populaire, évidemment, complètement factice. Mais malgré tout, et là, c'est là qu'il y a le virage, peut-être. Et Céline ayant aussi beaucoup critiqué Maurras, qui le traitait de juif parce que Maurras ne voulait pas tuer tous les juifs.
C'est ça. Donc, alors, il est question de Marcel Aimé aussi, qui vient alors avec des passages très 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 fins, je trouve, sur l'humour Marcel Aimé, et la manière dont cet humour sert de paravent.
Dont l'ironie va finalement neutraliser. Ouais. Tout positionnement politique a priori pour finalement donner raison justement très très souvent au personnage principal qui lui est un réac tranquille. Et donc d'une certaine manière ça va être une espèce de mise en équivalence de toutes les positions politiques possibles sauf celle du vieux réac.
Voilà. Et alors il y a un terme qu'il utilise alors que j'avais jamais vu mais que j'ai été charmé par l'usage de ce terme là. Il y en a pas mal hein. Alors, le terme
dextrogir.
Exactement. Bah. Alors là le dextrogir, j'ai été absolument charmé par ce terme là. Donc dextrogir donc qui polarise à droite, on va dire voilà. Donc,
on s'était pas concerté avant.
Exactement. Et donc, donc comme auteur d'Extrogir, voilà, là, on est en plein dedans. Alors après, il est question de Chardonne et Morand, alors qui sont, qui ont aussi versé dans la collaboration un peu plus que versé même. Les Hussards, évidemment. Alors tout un courant littéraire d'après-guerre cette fois-ci, analysé très finement aussi, je trouve, et qui fixe, à mon avis, à mon sens, c'est pour ça qu'on en reparlera, mais qui fixe, à mon avis, l'image, en fait, un peu dominante, je trouve. Voilà de l'écrivain d'extrême droite ou de à la française, il me semble. Je peux me tromper, mais c'est pour ça qu'ils ont une position qui est un peu charnière. Mmh. Et ensuite, alors il y a une troisième vague qui est plus contemporaine cette fois-ci, puisqu'elle vient jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a Suran, bien sûr.
Dont souvent pourtant le positionnement politique d'extrême droite dans les années 30-40
a été oublié bien sûr,
enfin qu'il a été en partie dissimulé par Suran lui-même
et bien sûr, ce qui l'explique très bien et ce qui, voilà. y compris dans l'usage de la langue qui est fait, mais là il va débusquer je dirais effectivement les formes et l'esthétique d'extrême droite dans l'écriture de Suran. Renaud Camus bien sûr, puis Richard Millet, et ensuite Michel Houellebecq, qui occupe lui aussi une place un petit peu à part. Alors c'est voilà, donc c'est un peu la galerie des auteurs là auquel il se consacre. Alors je trouve que sur le titre d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il aurait dû compléter son titre en mettant le style réactionnaire français. Parce oui. qu'il me semble que ça aurait été plus clair, parce que c'est très franco-centré comme oui. analyse, ce qui est pas un défaut en oui. soi, mais parfois ça donne le sentiment d'avoir une espèce de comment dire d'être dans une forme de théorisation un petit peu générale, alors que je pense qu'il est c'est vraiment ancré dans une tradition qui est propre au champ littéraire français, à l'histoire politique française. Et en fait, je trouve que le titre aurait gagné à présenter ça.
C'est vrai qu'il a un objet qui, en réalité, est très bien défini.
Exactement.
Et qu'on pourrait Exactement. S'imaginer plus voilà. flou à la voilà. lecture simplement
Exactement.
Du titre.
Exactement. Voilà.
Bon, le sous-titre précise, malgré
de
tout.
De Maurras à Houellebecq. Donc là, on est. Mais le style réactionnaire français, et je pense que c'est une particularité, effectivement, y compris dans l'histoire littéraire du XXe siècle. Parce que je ne suis pas persuadé qu'en fait, ce type d'analyse-là, et d'ailleurs, je suis même persuadé du contraire, fonctionnerait dans d'autres pays qui ont connu, effectivement, aussi des courants littéraires d'extrême droite, je pense à l'Allemagne avec des auteurs comme Jünger évidemment et beaucoup d'autres,
l'Italie
évidemment, l'Espagne bien entendu et en fait je voilà c'est pas une théorie générale de ce que serait un, voilà il y a pas du tout ce côté commissaire politique en fait hein, ça j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas un procès politique hein, du tout ce qui est fait, il essaye de décrire et de construire un concept de ce que serait et ce qui fonctionne d'après lui un style réactionnaire en montrant alors en fait là où je trouve que c'est très réussi c'est qu'il montre qu'en réalité ce concept là ne peut se comprendre que de manière chronologique finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style qu'on retrouverait et qui serait structurant finalement pour tous les auteurs là que j'ai cités. Il faut périodiser et il propose une chronologie qui elle aussi est intéressante parce que en fait, elle est pas intuitive et elle est pas historienne, je dirais, dans la proposition. Il propose en fait trois périodes.
Hein. Alors, ce qu'il appelle des situations.
Des situations qui sont des périodes d'un point de vue historique.
Oui, mais comme il prend un petit peu à revers les césures historiques habituelles posées au niveau de l'histoire de France par les historiens. C'est vrai que ça change un peu la donne.
Mais c'est intéressant parce que je pense que du coup, ça suggère quand même une espèce d'histoire, je dirais, proprement esthétique, qui suit, alors qui n'est pas complètement déconnectée, bien sûr, de l'histoire politique ou du contexte, mais qui a sa spécificité, quoi. Alors, la première période, c'est Maurras, évidemment. Maurras, qui pose, en quelque sorte, les bases et qui va servir un petit peu de figure tutélaire, hein, comme je disais tout à l'heure, à toute l'extrême droite littéraire et politique.
Sachant que l'Action française est fondée en 1898, et que lui va s'attacher plutôt aux moras d'après-guerre.
D'après-guerre, c'est ça.
Le moment où l'Action française est au relais d'un certain panache symbolique, disons.
Exactement.
Avant de se vautrer, parce que politiquement, il ne maîtrise rien.
Mais... Exactement. Bah, après la divine surprise, qui va en fait être le début de sa fin, en réalité. Hein. Donc, alors, il y a Maurras et ce qu'il appelle les puristes, hein, les auteurs, on va peut-être pas trop rentrer dans le détail de ça, parce qu'en fait c'est des gens qui effectivement vont défendre une espèce d'idéal de classicisme dans l'écriture et dans le récit, au service d'une restauration d'inspiration monarchiste et nationaliste intégrale, selon la doctrine politique de Maurras. Donc il y a ce premier temps, qui pour lui est très important, parce qu'en fait c'est là où effectivement on a une spécificité au XXe siècle de la réaction littéraire. Le deuxième temps, alors c'est ce qu'il appelle les tentatives et toute l'espèce de constellation du fascisme littéraire, qui est très intéressante aussi parce qu'il montre qu'en fait c'est un concept qui finalement fonctionne assez mal, c'est-à-dire qu'en fait comment exprimer ça ? On a les points communs entre tous ces auteurs là, hein, alors Drieux, Monterland, Brasillac, Céline, Rebattet, c'est en fait le Céline est un peu à part, mais pour les autres, on est dans quelque chose qui mêle en fait un héritage de l'idéal classique de Maurras, en même temps une espèce de volonté d'avant-gardisme moderne. Mais qui n'aboutit jamais. Et qui, en fait, est systématiquement, de son point de vue, et il le démontre avec des outils très, très convaincants, je trouve, qui n'aboutit jamais à une forme d'avant-gardisme réellement novateur, sauf chez Céline, et qui, en fait, plutôt des écrivains d'arrière-garde, pour le coup, c'est le cas de le dire.
Il
le dit tel quel. Ouais. Hein, et donc, alors, une espèce de modernisme d'arrière-garde. Mmh. Voilà, quelque chose, un truc un peu étrange, un peu hybride. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième temps. Alors,
sachant qu'avec quelqu'un comme Jouhandeau, par exemple, tu as une espèce de paradoxe entre sa prose littéraire... pas mêlé de politique directement, qui est assez avant-gardiste, inspiré de Mallarmé, et dès qu'il écrit un pamphlet, il retombe dans la garde littéraire totale.
Voilà. Et donc il y a ça. Alors il y a Bernanos qui est aussi un peu à part, je trouve, peu à part, et dont il le dit d'ailleurs qu'en fait chez Bernanos, la difficulté, c'est que c'est un auteur en fait qui peut finalement être utilisé, apprécié par tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'alors évidemment, et il montre que son centre de gravité, il est réactionnaire, et ça c'est pareil, c'est très convaincant la manière dont il démontre ça. Mais il y a aussi évidemment chez Bernanos en fait une condamnation de la bourgeoisie, une condamnation
et puis un usage de la maxime.
Qui
finalement a une espèce de pensée assez ramassée qui peut être extraite du texte et utilisée par à peu près n'importe
qui
parce qu'elle a un sens suffisamment général pour coller aux idées de n'importe qui.
De n'importe qui, y compris à l'extrême gauche.
Hein, voilà.
Le réalisme, c'est... je ne sais plus ce que c'est la formule exacte, mais la politesse des imbéciles, je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, il y a ces deux auteurs, je trouve. Voilà. Bernanos et Céline occupent une place un petit peu à part. Alors, Céline, il n'est pas tendre avec. Il n'est pas tendre avec Céline d'un point de vue stylistique, mais je trouve que, enfin là, pour le coup, il est clair. C'est ça. Et il continue. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a ensuite la Seconde Guerre mondiale et la collaboration, alors, dans lesquelles tous les auteurs dont il parle vont verser, mais alors, à pieds joints.
Hein. Et avec comme Rebattet sera un des germes du négationnisme après-guerre.
Bien sûr. Donc là, il y a une espèce de d'effondrement moral, je dirais, en fait, de toute cette tradition-là. Et en fait, il ne s'arrête pas à la Libération, il continue. C'est-à-dire qu'il montre que à la Libération, des gens comme justement Marcel Aimé, puis les Hussards, vont en réalité, dédiaboliser d'une certaine manière toute cette génération fasciste qui s'est compromise largement avec le fascisme et la collaboration, et vont créer une espèce de figure. Alors c'est là-dessus du coup. Peut-être que je trouve intéressant peut-être de démarrer, vont créer en fait une espèce de figure de l'écrivain dandy, esthète qui, d'une certaine manière, ne doit pas être pris trop au sérieux sur le fond, politiquement. Et il y a toute une tentative pour essayer de déshéroïser, de dépolitiser et d'esthétiser au maximum une littérature qui, en réalité, reste une littérature réactionnaire et avec des conceptions hiérarchistes, avec une morgue de classe permanente. Mais il s'agit, dans une situation où désormais ils sont complètement dominés dans le champ littéraire et dans le champ culturel, voilà, de trouver en fait les manières de dédouaner finalement la compromission de leurs parrain et mentor, pourrait-on dire. Et ensuite on va avoir, et on va s'arrêter après pour une première pause, ensuite on va avoir donc la période qu'on pourrait qualifier quasi postmoderne, je dirais, de ce courant réactionnaire, avec les trois auteurs qui choisit, donc Renaud Camus, Charles Millet et Michel Houellebecq. Et alors là, on rentre dans autre chose parce qu'on a affaire à des auteurs qui se positionnent pour le coup vraiment comme des post-avant-gardistes, pourrait-on dire. C'est comme ça qu'ils les présentent. C'est particulièrement vrai chez Camus et chez Millet, c'est-à-dire des gens qui ont digéré en quelque sorte la déconstruction du roman, notamment dans le mouvement littéraire qu'on a appelé le nouveau roman, précisément, et qui vont d'une certaine manière essayer de faire une espèce de nouveau roman de droite. Voilà, de droite, jusqu'à Houellebecq, qui lui, alors pour le coup, coupe les amarres avec ça, et va défendre et proposer une espèce d'esthétique romanesque qui, elle, est réactionnaire aussi, mais plutôt du côté de l'éthique, on va dire, et qui va donc ça nous donne une chronologie assez étonnante, voilà, avec des années d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, avec Maurras et les puristes, ensuite l'expérimentation du fascisme littéraire jusqu'à la Libération comprise. Voilà. Et ensuite, avec Sioran, Millet, Camus et Houellebecq, une espèce de bascule dans autre chose, où on a une espèce de réaction d'extrême droite postmoderne, pourrait-on dire. Donc voilà la manière dont il va articuler ce concept de style réactionnaire au vu de cette chronologie. On va faire peut-être une première pause musicale et puis on essaiera de rentrer un peu dans le détail après.
Sûr.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie. Alors, on l'a un peu éludé tout à l'heure, vous avez entendu d'abord un premier morceau de Kazay qui s'appelle « Suis ma plume ». Puis vous venez d'entendre Grind Omatic, un morceau qui s'appelle Réactionnaire. Alors pourquoi ces choix du divin et du divin José, qui est finalement au fond notre maître à tous en termes de bande-son? Eh bien parce qu'on parle ce soir d'un livre de Vincent Berthelier qui s'appelle Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq. C'est un livre qui est sorti aux éditions Amsterdam en 2022, et qui s'intéresse donc à ce courant assez particulier de la droite extrême littéraire en France, en choisissant donc de l'analyser du point de vue stylistique et en essayant de voir comment, chez un certain nombre d'auteurs, se développe un usage de la langue et de la création romanesque qu'on peut effectivement qualifier d'un point de vue stylistique de réactionnaire. Hein. C'est ça l'enjeu du livre. Alors, j'ai un peu présenté tout à l'heure la chronologie qui propose pour articuler ce concept, hein, qui est pas un bloc et qui se développe et qui évolue, hein, au cours du temps, qui suit également les transformations politiques, hein, en France, puisque ici il s'agit de romanciers uniquement français. Je voudrais peut-être lire un passage. Alors, il est un tout petit peu long, mais en fait, il me semble assez intéressant parce qu'il résume bien ce qui me semble être un peu le sens commun, je dirais, du point de vue de ce que c'est qu'un écrivain de droite, voilà, dans l'imaginaire collectif, pour autant que certains en aient là-dessus. Mais et alors du coup, c'est pas Maurras, il me semble, qui incarne ça aujourd'hui. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est plutôt du côté des hussards, c'est-à-dire de ce courant de romanciers d'après-guerre, hein, avec des gens comme Blondin notamment, qui incarne ça. Alors donc on est dans une période qui est historiquement très 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 précise, puisqu'il s'agit pour ces gens-là de dédouaner la compromission complète et pour certains revendiquée de leur mentor littéraire dans la collaboration et dans le fascisme, tout simplement. Alors il s'agit évidemment, ben, il faut les citer, hein, de Rebattet, il s'agit de Céline, il s'agit de Paul Morand, il s'agit de Chardonne, il s'agit également de Drieux-La Rochelle, il s'agit de Brasillac et de Monterland, hein, qui sont tous, hein, peu ou prou, et plutôt prou que peu, épurés, ou en tout cas victimes d'une épuration au moins symbolique, hein, pour la plupart d'entre eux, à la libération. Alors je lis ce passage-là qui essaye de résumer la manière dont les hussards ont essayé, stylistiquement pour le coup, et du point de vue esthétique, de dédouaner et de rendre de nouveau lisible le projet littéraire qui a été porté, notamment par ces romanciers-là. Alors, c'est page 245, et il résume ça de la manière suivante. Il dit « Dans l'entreprise de réhabilitation menée par les hussards, le style joue un rôle crucial, et pas seulement comme pratique d'écriture. Ces écrivains se sont aussi efforcés de forger un nouvel imaginaire stylistique. » On le voit dans le numéro de juin 55 de La Parisienne, avec l'entretien collectif intitulé « Existe-t-il un style littéraire de droite ?» Jacques Audiberti, poète qui avait publié dans le premier numéro de la NRF de Drieux-La Rochelle, y propose tout un développement sur les styles de gauche et de droite, avançant d'abord que cette distinction n'a pas de sens. Audiberti se lance ensuite dans une vaste prétérition. Si l'on prenait la distinction au sérieux, on pourrait attribuer au style de droite l'aisance, la fluidité, l'élégance, la désinvolture, un rythme impair et bâclé. À gauche, le style est laborieux, carré, travaillé, il roule des muscles. D'un côté, donc, l'aristocratie, de l'autre, le prolétariat. À droite, Madame de Lafayette, Saint-Simon, Lamartine, Musset, Stendhal, Verlaine et Drieux. À gauche, Bossuet, Michelet, Hugo, Peggy, Zola et Jaurès. Audiberti articule le style à un corps, délicat et manucuré, ou au contraire, transpirant et musculeux, en même temps qu'un camp politique. Entre parenthèses, Peggy ou Michelet, sujet à la CGT. Il continue, les autres participants de l'entretien attaquent le fanatisme des écrivains de gauche, soumis aux ordres de la collectivité. Paul Serrand résume cela de la manière suivante. Donc, il cite « Jusqu'à la dernière guerre, la droite défendait la cité et la gauche l'individu. Depuis la guerre, il semble que ce soit un peu le contraire. La droite se confond avec un certain individualisme, un certain scepticisme, tandis que la gauche, qui a pris le pouvoir un peu partout, en Europe, défend la collectivité et le sens de la cité. Tout en euphémisant les causes historiques du renversement qu'il mentionne, à savoir le fascisme et la collaboration, ce propos fait du style l'incarnation par excellence de l'individualisme. C'est un retournement impressionnant des représentations réactionnaires. J'ai essayé d'expliquer pourquoi, notamment par rapport à Maurras. Contrairement à la conception néoclassique maurrassienne et à ses ramifications, qui exigeaient du style, au contraire, l'expression adéquate des idées, les hussards, et leurs amis revalorisent le style pour lui-même et réduisent la politique à une affaire de goût. L'imaginaire stylistique ainsi refondé demeure réactionnaire, d'aspiration aristocratique et antidémocratique. Moins expressif que suggestif, le style n'est cependant plus en adéquation directe avec des idées, nationalistes ou traditionnalistes, mais avec une posture de dédain et de dandysme. Et, Berthelier explique, ce revirement s'explique par le contexte politique de la Libération. J'ai rappelé que Céline attribuait l'origine de ses malheurs, entre guillemets, c'est l'expression qu'il utilise, à ses audaces stylistiques.
Et non pas ces pamphlets violemment
antisémites, évidemment. Alors, sans surprise, Nîmier, qui fait partie des Hussards et qui travaille pour Gallimard, œuvre à sa réhabilitation en suivant la même ligne de défense. Il cite, là aussi, Nîmier, « crime beaucoup plus grave aux yeux de certains, Céline continue à couper ses phrases de points d'exclamation ou de points de suspension ». C'est évidemment pour ça qu'il s'est exilé à Sigmaringen et qu'il a ensuite...
Avec Pétain, Laval et compagnie. Exactement. Et qu'ensuite il s'est exilé dans un pays scandinave quelconque, j'ai oublié lequel, avant de pouvoir revenir en France, parce que je crois qu'il avait été condamné par contumace.
Et alors il continue en disant, il en fait de même pour les autres collabos, Morand, Jouandeau, Chardonne, sont autant de purs stylistes dont les engagements doivent être tenus pour nuls. Les hussards reprennent le fiat ars pereat mundus, que périsse le monde plutôt que l'art, de Rebattet ou de Drieu. Non plus cette fois sous la forme romantique d'une esthétique de la destruction, mais sous la figure désinvolte de l'indifférence. Une figure rhétorique qui illustre bien, c'est le parallélisme chez Jacques Laurent par exemple. Il cite là encore, la France sous l'occupation a pris l'habitude de se diviser entre ceux qui comprenaient que les Allemands nous pillent et ceux qui comprenaient que les Anglais nous bombardent. Voilà.
Ah oui, cette formule.
Un partout balle au centre.
C'est ça, cette formule est grande.
Exactement. À un moment où les oppositions partisanes sont aiguës et où l'asymétrie des valeurs politiques est patente, le parallélisme introduit une dialectique mutilée. Il pose dans la langue l'équivalence du tout et de rien, caractéristique de la pensée de droite, selon Simone de Beauvoir. Or, ce n'est pas, loin de là, le seul trait de style qui remplisse cette fonction et nourrisse l'idée opportune d'irresponsabilité. Donc, j'ai lu le passage un peu en entier parce qu'il me semble assez emblématique de ce qu'a longtemps été, je trouve, dans l'imaginaire collectif, un romancier de droite. Voilà, cette espèce de détachement esthète, individualiste, irresponsable. Il y a tout un passage très intéressant sur l'enfance et sur la manière dont l'enfance devient, avec les hussards, une espèce de modèle de la liberté.
Ce qui est contradictoire avec les habitus réactionnaires qui voudraient plutôt que l'enfant soit obéissant.
Exactement. Mais alors, ce qui plaît évidemment aux hussards dans la figure de l'enfant, c'est que l'enfant est irresponsable. Donc évidemment, Céline est aussi un enfant du style, etc. Voilà, on est là-dedans, Drieu pareil, tout ça. Tous irresponsables. Ouais. En fait, la responsabilité n'a pas sa place, en fait, lorsqu'il s'agit de style en littérature. Et il y a tout ce travail-là qui est mis en place à la Libération et qui n'ouvre pas quelque chose de nouveau, qui en fait boucle les expérimentations littéraires fascisantes de tous les auteurs dont il a été question.
Et puis qui dissimule et rend confus. En fait, le but, je pense, c'est quand même la confusion.
Bien sûr.
C'est-à-dire, eux, ils sortent de l'épuration, Brasillac s'est fait fusiller, il y en a quelques-uns qui sont encore en exil, et donc ils se disent comment survivre en tant qu'auteur de droite, après toutes les saloperies qu'on a pu faire.
Sauf qu'eux étaient trop jeunes pour en avoir fait.
Oui, c'est vrai.
Pour en avoir fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, ceux qu'ils cherchent à réhabiliter sont leurs mentors, qui ont 15 ou 20 ans de plus. C'est la génération d'avant.
Oui, mais je pensais à Marcel Aimé, et tous ces gens-là.
Marcel Aimé, bien sûr. Oui.
Qui sont obligés, finalement, d'entretenir une espèce de confusion, parce qu'ils se disent que ça pourrait mal tourner pour leur mieux en matricule, quoi.
Et alors là, c'est intéressant parce qu'on voit comment il y a une forme, en fait, et au fond, je trouve que c'est ça la thèse du livre, et je la trouve assez intéressante, cette thèse-là. Il montre que finalement, si le trait commun au style réactionnaire, c'est qu'en fait, du point de vue esthétique, au fond, il est opportuniste. C'est-à-dire que la littérature est toujours mise au service d'une idéologie politique qui est toujours première, et qui va ensuite se traduire par des choix ou par des manifestes esthétiques, mais qui sont toujours ad hoc. d'une certaine manière. Mmh. Et c'est pour ça que la chronologie qu'il propose est intéressante et très éclairante. Mmh. Parce qu'il montre, alors sur ce thème de la jeunesse et de l'enfance, par exemple, je trouve que c'est un exemple, mais il y en a 50 dans le livre. Hein. Il dit, la jeunesse, c'est un thème privilégié du fascisme. Mmh. Mais le rapprochement ici serait trop facile. Hein, l'enfance comme âge de l'irresponsabilité et de la liberté. Alors, il fait une analyse un peu plus précise. Il nous dit, c'est un rapprochement qui serait trop facile parce que le thème de la jeunesse, on le trouve aussi chez Bernanos. Chez Peggy aussi, au passage, hein, qui lui était de gauche avant de
virer nationaliste et de mourir au front.
Avant qu'il finisse à droite, il est mort avant. Mm-hmm. Mais en l'occurrence, ce thème de la jeunesse, il est là. Mais il montre justement comment ce thème est plastique, finalement, chez ces romanciers-là, puisqu'il nous dit que c'est aussi une préoccupation chez Bernanos, qui, alors lui, pour le coup, ne peut pas être soupçonné de fascisme, hein, puisqu'il a dénoncé le franquisme.
Ah oui et non.
Il n'a pas collaboré.
Il était franquiste au début.
Il était franquiste et il a renié le franquisme.
Oui. Et ensuite, il est devenu le gaulliste.
Et ensuite, il est devenu gaulliste. Et il y a chez Bernanos, Bernanos est un écrivain réactionnaire, mais il n'est pas fasciste. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça.
Il est nationaliste et antisémite.
Oui. Monarchiste,
membre des Camelots du Roi,
antidémocrate, autoritaire, tout ce qu'on... Voilà, mais pas fasciste. Voilà.
Et il a écrit un livre qui reste quand même très intéressant à lire, Les grands cimetières sous la lune,
sur la guerre d'Espagne. Et alors, il montre, alors il dit donc, voilà, que la jeunesse, c'est aussi une préoccupation bernanosienne. Nîmier, qui aurait rencontré Bernanos vers 46 ou 47, lui consacre un de ses premiers essais et lui emprunte un de ses titres, Les enfants tristes, qui font écho aux enfants humiliés. Et là, ce qu'il montre est intéressant, dit, mais tandis que chez Bernanos, l'enfance symbolise la situation de la jeune génération, c'est-à-dire celle qui a fait la guerre de 14 et celle qui lui succède, qui sont des générations sacrifiées et désespérées, chez les hussards, l'enfance va incarner l'insouciance et l'insolence. Singulier retournement quand on y songe, pour les réactionnaires, l'enfance est généralement l'image de ceux qui ne peuvent pas raisonnablement se gouverner eux-mêmes, le peuple, la femme, le colonisé, et avec les hussards, elle devient une figure par excellence de la liberté. Et on voit là qu'il y a une espèce d'opportunisme en fait, politique, hein, qui instrumentalise en réalité la littérature. Alors on a beaucoup dit effectivement à l'extrême gauche et du communisme qu'on avait une littérature au service d'eux, bien entendu, hein, que ce qui était premier c'était le politique, mais c'est exactement la même chose à droite.
Oui. C'est une question qui est un petit peu lancinante dans ce livre, c'est la question de l'autonomie du champ littéraire par rapport au champ politique. Parce qu'il y a un peu de Bourdieu dans l'analyse de Bertellier.
De manière très pertinente, je trouve.
Et pas envahissante. C'est pas non plus un bourdieusien fanatique, mais il reprend certaines catégories un petit peu centrales de Bourdieu, et dans l'idée que justement au 19e siècle, au début du 20e siècle, va jouer toute une bataille pour que la littérature s'autonomise et devienne un champ avec ses normes propres, qui vont être indépendantes des normes du champ politique ou du champ moral ou du champ religieux. Et donc, effectivement, avec l'occupation et la libération, tout d'un coup, il y a une grosse perte d'autonomie à cet égard de la littérature qui devient de nouveau sujette à différentes forces politiques de manière beaucoup plus directe.
L'image qui me vient quand même de ce point de vue-là, c'est, je trouve, et ça émerge bien de ces analyses, c'est de voir la littérature finalement comme un front. C'est comme une ligne de front. Et il y a cette idée. Alors, cette ligne de front, elle va être définie d'abord par Maurras. Alors, à partir d'un contexte qui est celui, en fait, de l'héroïsation des morts pour la France, hein, et avec une détestation de tout ce qui est incarné par la République, par la modernité, par l'individualisme. Alors, c'est pareil, l'individualisme dont il fait quasiment une espèce de métaphysique à combattre, hein, c'est l'individualisme, c'est le mal, c'est la Révolution française, c'est le protestantisme, c'est le judaïsme, bien évidemment, même si c'est un individualisme communautaire. Bon, en fait, c'est tout ce qui est étranger à une conception organique de la France.
Le judaïsme, disons, comme l'individualisme, est dissolvant.
Dissolvant la communauté. Exactement.
Je pense que c'est le point commun.
Et petite parenthèse au passage, je lis le passage aussi, alors là je reviens au début sur Maurras, mais pour montrer justement ces effets de balancier, en fait, qui correspondent aux avancées ou aux reculs du front. Je dirais du front politique et la manière dont la littérature effectivement s'adapte à cela. Un passage donc à propos de Maurras, il nous dit, voilà, l'individualisme chez Maurras, c'est le produit de la Révolution française, du protestantisme, et c'est la cause d'une décadence à la fois sociale et littéraire. Ou comme l'écrit aussi Bourguet, notre démocratie a fait sa besogne d'éparpillement là comme ailleurs. L'homme moderne, qu'il veuille construire sa fortune ou écrire un livre, n'a plus de vaste organisme héréditaire où prendre place. Maurras, en tant que critique littéraire, souscrit entièrement à ce diagnostic. Il s'insère donc dans une double tradition, une ancienne, pour laquelle la forme doit être subordonnée au sens, ça c'est le classicisme qu'il revendique, et une plus récente, selon laquelle l'évolution démocratique des sociétés signe la fin de la norme classique. Hein. Donc il y a derrière ça, il y a chez Maurras au départ, et c'est ça le point de départ en fait, des analyses de Bertellier dans son livre, Le style réactionnaire, c'est de penser la littérature comme une manière de restaurer. Alors bon, bien, Maurras était monarchiste, partisan d'un nationalisme intégral, mais en termes stylistiques, il s'agit de produire et de fabriquer, de refabriquer une langue qui permette d'exprimer et d'incarner, je dirais presque, cette espèce de tout organique, hiérarchisé, héréditaire, dans lequel chaque chose a sa place et dans laquelle l'individu est toujours au service de ce tout qui le dépasse et qui est justement la nation. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a juste, avant qu'on fasse une deuxième pause, il indique une petite référence qui est pas inintéressante. Il dit par exemple que Maurras emprunte notamment aux travaux de Max Nordau. Max Nordau, c'est intéressant parce que c'est un auteur qui pour le coup est autrichien. Physiologiste juif autrichien, l'auteur du livre Dégénérescence. Alors, c'est un livre de 1892, succès de librairie où est développé le concept d'ataxie, qui est une affection, d'après Nordau, désignant les différents symptômes de division physiologique interne qui peuvent toucher un individu, a fortiori un écrivain, et le conduire à des états d'incoordination, d'inharmonie ou de simple arythmie. Or, c'est justement, nous dit Bertellier, ce qui caractérise le style malade des écrivains romantiques selon Maurras. Donc là, on voit l'articulation qui est faite entre l'idéologie sociale, hiérarchiste, réactionnaire de Maurras et la manière dont il va la traduire, essayer de la traduire dans sa pratique de la langue. Et pourquoi je dis que la référence à Nordau est intéressante ? Parce que Nordau est le bras droit de Theodor Herzl. Voilà. Et du nationalisme juif, pour le coup, à l'origine du sionisme de Herzl. Et là, on a des espèces de croisements et d'hybridations qui sont assez improbables, mais je trouve intéressantes. Voilà. Alors, on va s'arrêter sur ce point-là avant la troisième et dernière partie sur ce livre, Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, pardon.
Belle question de style.
Si on sort dans la décadence, c'est pour ne anéantir leur doctrine, l'ignorance, la tradition qui nous font venir. On a le prix à vous à voir, mais on a choisi notre odeur. On n'a pas le sens de leur question de style, question de style, question de style. Voilà, je suis sorcière, sera ouverte. On sera tous dans le premier wagon. On joue dans leur four crématoire. On ira semer le bourson. Le système c'est répressif. Dans la justice, nous on persiste. On construira jamais Dieu. En 10 ans pour être Dieu. En 10 ans pour être Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, allez.
Bonsoir à tous, et bien sûr Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération Anarchiste et la voix sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre le groupe Légitime Défonce sur un morceau fort à propos qui s'appelle Question de style, avec un K, je précise, c'est un morceau de ce groupe français de 1988. Pourquoi ce morceau sur les questions de style? Eh bien, Michel, tu allais me poser la question, je te réponds.
Évidemment.
Mais voilà, parce qu'on parle ce soir du livre de Vincent Berthelier qui s'appelle Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, édité aux éditions Amsterdam en 2022. Où les questions donc de la manière dont tout un courant littéraire français a essayé de traduire dans son œuvre littéraire, eh bien une idéologie politique de droite extrême, voire fascisante dans certains cas, à certaines périodes. Et alors, bon, parler de Maurras juste avant, hein, qui est un peu l'auteur de départ, l'auteur un petit peu tutélaire de ce courant littéraire. Ok, un pourfendeur du romantisme, de l'individualisme et du romantisme littéraire comme traduction justement de l'épanchement individuel, etc. Du manque d'unité, de l'amplification gratuite, autonomie du mot, voire du son. Voilà le noyau de la critique maurrassienne du romantisme, nous dit Berthelier. Alors, le livre est extrêmement riche et propose des analyses au laser, hein, je dirais, de tout un tas de passages. Donc, c'est impossible à résumer. Je voudrais peut-être vous en lire encore quelques passages. Alors, sur ceux qui sont les plus réussis, peut-être sur Bernanos, alors qui occupe une part un petit peu une place un peu à part dans tout ce défilé, parce que Bernanos alors est un auteur qui effectivement au départ d'extrême droite, il est d'une famille monarchiste, maurrassienne, catholique évidemment, très hostile à la démocratie, et après il y a ce tournant que tu as mentionné tout à l'heure, hein, au moment de la révolution espagnole et de la guerre d'Espagne et du coup d'état de Franco, où en fait au départ Bernanos soutient Franco contre la République espagnole, et puis en fait il voit ce que ça donne en pratique et il va avoir l'intelligence et peut-être la chance pour lui de faire machine arrière et d'être extrêmement critique, et même c'est peu de le dire, hein, du franquisme et de la cruauté et de l'espèce de la manière dont l'Église catholique, y compris ce corrompt, c'est essentiellement ça. Hein,
c'est son christianisme qui le fait virer là-dessus
en montrant avec les grands cimetières sous la lune, hein, qui est ce texte consacré à la guerre d'Espagne. Alors en même temps, ça n'empêche pas qu'il va rester toute sa vie en fait dans ce cadre esthétique là, d'après Berthelier, même si c'est sous une forme un petit peu particulière, et au moins ça va lui éviter la compromission fascisante et la collaboration, hein, puisque lui ne trempe pas là-dedans. Alors il s'intéresse notamment à la manière dont en fait Bernanos, dans les années 30, donc avant cette prise de conscience antifasciste, pourrait-on dire, la manière dont Bernanos construit son esthétique littéraire contre d'autres courants qui, eux, pour le coup, peuvent être qualifiés de démocratiques. Alors, je cite notamment ce passage-là qui est intéressant, c'est page 91, il dit « Plusieurs romans français des années 30 accordent une large place à l'éloquence démocratique. La fiction reproduit les débats politiques de l'époque ou bien redonne voix à la parole représentante. » Il dit « On pense, par exemple, à Jaurès, ressuscité comme personnage dans Les Thibauts et Les Hommes de bonne volonté. » La polyphonie romanesque ouvre ainsi une sorte d'espace virtuel qui dédouble l'espace parlementaire. Et parallèlement, la parole tribunicienne de l'orateur et à travers lui du romancier donne voix à ceux qui n'en ont pas, les pauvres, les prolétaires. À l'opposé, le régime de parole des romans de Bernanos n'a aucunement vocation à ouvrir un espace de débat et de délibération. L'éloquence de Bernanos, elle est imprécatoire. Elle prend la forme de la diatribe qui s'adresse à tous, impérieusement, quoique sans certitude d'être entendue de quiconque. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Oui. Citation biblique, bien sûr. Autrement dit, l'espace politique fictionnel couvre les romans de Bernanos et tout sauf un espace démocratique, nous dit Berthelier. C'est celui transcendant du prophète, du prédicateur, qui n'attend ni discussion, ni réfutation. Donc, d'un point de vue stylistique, encore une fois, on est dans quelque chose qui effectivement, ça peut se ressembler à une réaction littéraire. Alors, il conclut ses analyses sur Bernanos de la manière suivante. Il nous dit, finalement, une des clés de l'esthétique complexe de Bernanos, c'est cela. Celui-ci est tiraillé entre, d'une part, le rejet du rationalisme, dont le classicisme serait l'expression esthétique. Hein, l'art classique, il cite là Bernanos, l'art classique a tué l'art populaire, toute la philosophie du progrès est en germe dans l'humanisme de la Renaissance. Donc là, on voit bien qu'il cherche quelque chose d'avant, effectivement, la modernité et même la prémodernité. Et donc, il est tiraillé entre ça, ce refus du rationalisme, et d'autre part, l'admiration pour la dimension morale des œuvres classiques, de la générosité cornélienne à l'inquiétude spirituelle de Racine. La culture classique est et demeure son référentiel esthétique, au même titre, si on force un peu l'analogie, que le nationalisme monarchiste reste son référentiel politique. Une même inquiétude l'en fait dévier cependant et privilégier ce qui, dans le monument classique, fait la part du vide et de l'angoisse, Pascal et Racine plutôt que Descartes, non plus la raison, le fini et la ligne droite, mais l'inquiétude métaphysique et le risque. Et en ce sens-là, finalement, c'est le dernier des Maurassiens, finalement, hein, dans l'espèce de chronologie que propose Berthelier. Alors, il y a d'autres passages que je trouve très intéressants, notamment sur le moment fasciste littéraire, qui consacre donc ses analyses à Monterland, à Drieux-La Rochelle, à Morand, à Céline également. Alors, pareil, là aussi, peut-être le mieux, c'est de la comparaison qu'il va faire notamment entre quelqu'un comme Rebatté, alors qui est ouvertement collaborationniste et fasciste, et Céline, qui lui ne l'est mais ne l'assume pas. Alors, il montre, voilà, il dit la différence entre Rebatté et Céline, ce qui est d'ailleurs pour lui une preuve que Céline est sans doute le seul vrai représentant du fascisme en littérature.
Oui, mais d'ailleurs, son livre, c'est pas le style fasciste, c'est le style réactionnaire.
Exactement. Alors, il montre, effectivement, pour Rebatté et Céline, il dit, certes, ils ont en commun le relâchement de la violence verbale, la furie anticulturelle, ça, c'est une formule de Pasolini, alors on voit qu'on est loin de Maurras et on est loin de Bernanos, le recours massif à l'insulte et à la vocifération, l'intimidation par la scatologie et la blague, qu'a souligné Philippe Roussin, mais chez Rebatté, la profusion d'adjectifs, d'adverbes, d'hyperboles et d'intensifs n'entraîne aucune entorse véritable à la syntaxe. Et ces quelques pastiches ponctuels de Céline demeurent des pastiches. Quant à l'argot, chez Rebatté, il émane du prolétariat et de sa haine de classe. Pardon, chez Céline, l'argot émane du prolétariat et de sa haine de classe. Pour Céline, chez Rebatté, les tournures orales assimilent et réduisent l'adversaire à ce même prolétariat. La langue populaire est bien assez bonne pour parler de ceux dont on parle. Et donc chez Céline, on a effectivement quelque chose qui relève du fascisme littéraire, dans la mesure où, nous dit Berthelier, il entretient à dessein la confusion entre peuple, classe et peuple-race. Et il essaye de créer la langue littéraire correspondant à une communauté nationale et raciale, une langue de masse adaptée au fascisme comme mouvement de masse. C'est comme ça, effectivement, qui...
Sachant que l'articulation de ces notions est complexe à l'époque et que c'est choses qu'on a peut-être un peu perdues, et que, par exemple, une des raisons de la haine de Céline à l'égard de Maurras, c'est que Maurras est souvent plus nationaliste que raciste, alors que Céline est plus raciste que nationaliste.
Exactement, c'est-à-dire que Maurras n'est pas raciste. Il reproche aux Allemands, le racisme est une invasion allemande. Oui. Il est xénophobe, mais il n'est pas raciste.
Ce qui fait que, par exemple, pour Maurras... Il y a entre guillemets des bons juifs, c'est ceux qui sont tombés pour la France. Alors que Céline dira, dire qu'il y a des bons juifs, c'est comme dire qu'il y a de bons microbes. Et que, par exemple, Céline est tout à fait pour favorable à une partition de la France, à un rattachement d'une partie de la France à l'Allemagne, au prétexte que, justement, la bonne race du Nord doit prévaloir. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment des oppositions, ça qu'on a complètement oublié, ce qui fait que... qui sont devenus un peu impensables pour nous, du genre le nationaliste pour nous, il veut la France complète et il est raciste. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est plus complexe.
Ouais. Alors peut-être, puisqu'il nous reste sur les dernières minutes, je dirais juste un mot, évidemment, bon, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail du livre, hein, qu'on recommande vraiment, le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, de Vincent Berthelier. Deux mots sur Houellebecq quand même, puisque c'est le dernier des romanciers qu'il aborde. Et on pourrait d'ailleurs se demander, Houellebecq n'a... Alors, maintenant, c'est beaucoup plus clair, hein, depuis déjà quelques années, qu'on sait qu'il est,
Dextrogir.
Dextrogir, hein, voilà. Il est très, très nettement dextrogir.
Il y a un mouvement qui le porte vers la droite.
Là, maintenant, c'est officiel. Alors, il s'en explique, hein. Alors, donc, c'est vers la fin du livre, page 351. Il explique, ce qui me rend le plus enclin à qualifier Houellebecq de réactionnaire, c'est le fait que son antilibéralisme émane d'un idéologème réactionnaire implicite dans l'œuvre depuis son premier roman, Extension du domaine de la lutte, à savoir que la contrainte autoritaire est en soi protectrice. Une idée qui est très juste, je trouve. Ce qui est un reliquat du fantasme nobiliaire, les nobles se révoltent en protecteurs des petites gens. Cela s'applique surtout au domaine des mœurs, chez Houellebecq. La disparition de la contrainte matrimoniale et la libération sexuelle ont eu, dans la conception houellebecquienne, le même effet sur les rapports humains que le libéralisme sur les rapports économiques. Elles engendrent de la concurrence, des inégalités considérables et de la souffrance. Sa nostalgie d'un patronage idéologique exercé par l'Église catholique et le diagnostic déclinistes et pessimistes qu'il porte sur l'Occident peuvent aussi s'entendre en ce sens-là. Et la réaction de Houellebecq, plus résignée que réactive, mais là encore ce n'est pas rare, est donc plus éthique que politique. Voilà ce qui le rattache. Effectivement, je trouve ça aussi assez juste. Et ça vous donne une idée un petit peu des formules et du type d'analyse qu'on trouvera. Donc on va s'arrêter là-dessus parce qu'on arrive au bout de l'émission. C'était donc Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq de Vincent Berthelier aux éditions Amsterdam. L'émission est disponible sur les archives sur le site durdulu.org. Et on vous dit à la prochaine fois.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Enfin, les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Bonsoir auditrices et auditeurs, nous sommes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et maintenant débute une nouvelle émission de Musique en lutte. Comme pouvait le dire Rage Against the Machine et Green Day, avec des morceaux comme Know Your Enemy, il faut bien connaître son ennemi. Aussi ce soir, nous nous intéresserons à la musique d'extrême droite, et particulièrement en France, en Europe, et un peu ailleurs aussi. L'idée est de balayer ce qui s'est fait tout au long du XXe siècle et ce qui se fait aujourd'hui, en le décortiquant par genre de musique. Ce mois-ci, nous commencerons par une partie un peu historique, avec les débuts de la chanson, de la country. Nous poursuivrons par les musiques rock, punk, dark wave, indus, metal, néo-folk, dark folk. Et nous poursuivrons le mois prochain avec le rap, les musiques électroniques et l'épineuse question des concerts et modes de diffusion. Je m'appuierai sur de nombreux documentaires, vidéos, articles et livres trouvés en ligne et que je reprendrai parfois mot pour mot. Bien que je connaissais l'existence de pas mal de mouvements musicaux d'extrême droite, j'ai tout de même été assez surpris de leur quantité. Et quand on y regarde de plus près, il y a un bon paquet de musiciens qui se perdent dans des textes et postures fascistes et xénophobes. Et évidemment, pour contrebalancer tout ça, nous écouterons tout au long de l'émission des morceaux qui démontent ces idées nauséabondes. Et pour se mettre dans le bain, on commence avec le célèbre groupe noise rock Sonic Youth et son morceau Youth Against Fascism.
Yeah.
Fuck. Shit is out of luck. It's the song I hate.